Une petite frousse, par contre, Vlad Guerrero. Oh, monsieur, faudrait pas le perdre, celui-là. Ça paraît quand il est pas là.
Oui, ça paraît. Je sais pas. Écoute, moi, je trouve que l'attaque des Blue Jays, bon, c'est sûr qu'à long terme, une perte de Vladimir Guerrero serait, je dirais même, désastreuse.
Au jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Grand Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte Complet, notre rendez-vous hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Huzeau en compagnie de Marc Griffin. Je vous souligne qu'il y aura un deuxième compte complet sur, évidemment, on a fait appel à vous, à savoir ce qui vous allume dans un match de baseball. Donc, moi et Marc, on va s'arrêter un petit peu sur ce qui pourrait être fait pour améliorer le baseball. Ça peut être sur le terrain et également en dehors du terrain, il y a certains trucs qui... sur lesquels, que ce soit les marqueurs officiels, la façon de les décisions sont prises et tout ça. Bon, bref, c'est cette semaine que ce balado sera produit. Donc, on vous invitera évidemment à nous écouter ou nous regarder. En ce qui concerne ce balado, en ce début de semaine, il reste 5 semaines avant la fin du calendrier régulier et les Red Sox de Boston se retrouve deuxième dans l'Est de la Ligue américaine. Les Blue Jays premier, les Yankees troisième. Donc, on va parler de cette série-là de 4 matchs entre les Boston et les Yankees. On va parler également de la dure réalité du baseball majeur, en passant par ce qui est arrivé au cours de la dernière semaine à Abraham Toro. Évidemment, il sera question de la semaine des Blue Jays de Toronto, de la série entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego. C'est une deuxième en pas grand temps entre les deux équipes. On est à égalité au premier rang dans l'Ouest en ce qui concerne cette lutte-là. Et finalement, dans notre dernier bloc, on va parler d'un possible changement dans le baseball majeur, une réorganisation. Ça a été discuté par le commissaire du baseball, Rob Manfred. Et on va parler du record de circuit par les receveurs de Cal Raleigh. C'est pas encore fait. Vous allez me dire qu'il a battu Salvador Perez. On vous en parle un peu plus tard. Marc, Boston, Yankees. Yankees ont échappé belle. Disons-le, ils ont perdu les 3 premiers matchs de la série des Yankees en ne jouant pas très, très bien. Les Red Sox, qui ont l'air d'une vraie équipe de baseball, Marc, c'est pas compliqué, là. Puis Craig Breslow passe pour un génie présentement, alors que tout le monde voulait le lapider au mois de juin.
Oui, puis encore une fois, on veut pas taper trop sur Raphaël Devers, mais les Giants, la pire équipe du baseball depuis la transaction. Alors ça, c'est pas évidemment une bonne nouvelle pour les Giants, ouais. Mais bon, ça sera à revoir. Écoute, tu as raison de mentionner que les Red Sox jouent du bon baseball. Lorsque tu as un Garrett Crochet, Bayo a été extraordinaire dans cette série-là face aux Yankees aussi. Alors, tu vois que les lanceurs partants, il y a le poste de cinquième partant là, qui reste encore là, peut-être à déterminer un peu là, chez les Red Sox, mais ça reste que on joue du bon baseball. Moi, j'aime ce que je vois de bien des joueurs. Les jeunes font le travail. Roman Anthony a l'air d'un vrai, là. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ouais.
C'est le fun de voir ça. Puis regarde, Alain, balayer une série au baseball, c'est déjà difficile, une série de 3 matchs. Imagine une série de 4 alors que là, les Red Sox ont échappé le dernier match. Mais du côté des Yankees, je pense qu'on expose un peu les Yankees dans cette série-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que si les Yankees ne frappent pas de coup de circuit, Alain, on est dans le trouble. On joue pas encore du très, très bon baseball en défense. Je trouve que les prises de décision qui sont encore très douteuses, là, je pense, sur quel but lancer, sur des erreurs autant physiques que mentales. Puis, au niveau des lanceurs, c'est pas des boîtes à surprise, Alain, mais il y a un petit peu moins de constance qu'on a vu dans la première moitié de saison. Puis, on l'a vu, lorsqu'un partant adverse domine, c'est difficile, Alain. On ne produit pas une tonne de points outre la longue balle. Alors, c'est... Et les Yankees, s'ils se mettent à frapper, Alain, ça va être probablement la meilleure équipe du baseball. On sait, là, ils dominent à peu près toutes les catégories offensives importantes. Ben,
c'est pour ça, Marc, je te trouve sévère un peu. Je préfère donner le crédit aux Red Sox parce que c'est la meilleure attaque de la Ligue américaine, là, des Yankees de New York. Quand tu regardes le MPP, tu regardes, ils produisent à l'étranger, ils produisent à domicile.
Mais Alain, on ne court pas bien les buts. Je vois des choses que j'aime pas. J'ai vu Bellinger pas courir hier à 100% sur une possibilité de double jeu. Il était sauf, là. Mais c'était bien trop serré. Fait qu'il y a des petites choses qui m'agacent chez les Yankees à ce niveau-là. Tu sais, les Yankees, là, Alain, normalement, là, c'est... Je dirais pas que c'est impeccable, là. Il va y avoir des erreurs, là. Mais tu sais, en termes de comment on joue le baseball, là, chez les Yankees, ça devrait être la marque de commerce. Tu joues pour les Yankees, cours, tu fais les jeux, bon, tu... Mais il y a trop de petits éléments, là, qui m'empêchent de croire que c'est l'équipe qui va dominer carrément, là, d'ici la fin de la saison.
Oui, c'est sûr qu'il y a des trous, Marc. Je regardais, puis là, ben les trous semblent s'agrandir. On les amplifie. Lorsqu'une équipe a des ennuis, Marc, c'est ce qui arrive. Tu regardes des... je regardais la moyenne de présence sur des buts, par exemple... Au poste d'arrêt court, de troisième but, de receveur, quand Wells est le receveur, c'est pas 300, là. Dans les trois cas, c'est le tiers de la formation, ça. Ça nous rappelle un peu les Dodgers. Les Dodgers qui n'ont pas de mauvaise attaque dans l'ensemble, mais on a l'impression que c'est exposé davantage. Et c'est ça que je trouve cruel un peu. Et je l'ai mentionné à quelques reprises, surtout dans le cas de Volpe. Moi, je trouve qu'on était un peu injuste à son endroit. Parce que c'est pas lui qui est supposé de transporter cette équipe-là.
Non, mais par contre, tu sais, Volpe, il faut qu'il se rende sur les buts. Tu sais, les Yankees, là, Alain, là, tu peux frapper 8 coups de circuit en solo, tu as fait 8 points, c'est beau, mais tu comprends, ça prend le circuit de 2 puis 3 points. T'sais, on a carburé à ça depuis des années.
Ouais.
Fait que ça prend des gars sur les buts, et il faut qu'un gars comme Volpe, qui a le profil d'un joueur qui est quand même assez rapide, qui est très athlétique, trouve le moyen de se rendre sur les buts. Puis, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il se présente au bâton, lui, il veut frapper un circuit. Mm-hmm. Alors que moi, je pense que il va en frapper, là, mais je veux dire, c'est pas son rôle. Ton rôle, c'est rends-toi sur les sentiers, frappe une balle en lieu sûr, trouve le moyen de te rendre sur les buts de n'importe quelle façon. Puis là, ben les Judge et Stanton et compagnie, ben pourront se présenter au bâton avec des coureurs sur les sentiers. C'est ça que tu veux. Là, présentement, Judge est un petit peu plus au ralenti. Est-ce que c'est sa blessure? Est-ce que c'est le fait que les frappeurs de choix, c'est que c'est pas fait pour tout le monde d'être frappeur de choix non plus. Donc, il y a quand même des défis. Mais je suis d'accord, Alain, dans le sens que si l'équipe se met à frapper, il faut que tu frappes, Alain. Mais si, par contre, que lorsque tu affrontes un lanceur de premier plan, tu n'es pas capable de montrer les chiffres que tu montres. Ça aussi, là, c'est un enjeu là, du côté des Yankees. Là, on va jouer contre les Nationals de Washington. Ben, normalement, on va frapper. Là. Normalement, on a vu ce qu'on avait fait contre les Rays de Tampa la semaine dernière. Là. On les a massacrés, 14 coups de circuit en deux matchs. Mais là, on a affronté des lanceurs solides. Oups! On était très silencieux dans les trois premiers matchs. Fait que ça va prendre un petit peu donc de constance. Mais Alain, pour faire en sorte que le jeu en défense, les prises de décision soient moins exposées, il faut pas arrêter de frapper. C'est aussi simple que ça.
Oui. Écoute, c'est la force de l'équipe. C'est la force de l'équipe. Freed et Rodon. Rodon, Marc, continue de bien lancer. Regarde, Freed, tout de même pas de sa faute, son équipe n'a pas marqué de points à son dernier départ contre les Red Sox de Boston. Ça a été un très bon match. Tu perds 1-0, tu as fait ton travail. Dans le cas de Freed et Rodon, ça va se replacer. Je pense que c'est deux gars qui avaient une feuille de route. Et ils font partie de l'équipe, Marc. Ces deux gars-là sont supposés d'être la locomotive de cette formation-là. Donc, il y en a des équipes pour qui c'est la vitesse, il y en a d'autres, c'est autre chose. Moi, ce que je trouve un petit peu, globalement, ils ont une très bonne moyenne de présence sur les buts, mais je regarde dans l'ensemble de façon régulière, il y a deux gars qui sont vraiment au-dessus de la moyenne dans la présence sur les buts, c'est Grisham et Judge, et surtout Judge qui tire vers le haut à peu près tout le monde et toutes les statistiques d'équipe. Faut être plus souvent sur les buts. Moi, je pense que c'est ça qui est la clé. Comme tu disais tantôt, le circuit en solo, Earl Weaver, quand c'est le père, je le disais, du circuit de trois points, c'est ça. Chez les Yankees, ça prend du monde sur les sentiers.
Exact. Écoute, Alain, puis on a beaucoup de retraits sur des prises, fait qu'on on ne teste pas nécessairement la défense adverse tant que ça, comme par exemple les Blue Jays, qui c'est l'équipe la moins retirée sur des prises, donc ça fait partie des succès de l'équipe, c'est de mettre la balle en jeu et mettre de la pression sur l'adversaire. Donc, vraiment, les Yankees, on doit carburer avec la puissance, mais idéalement avec des gars sur les Antilles, puis c'est là, c'est là qu'on va voir qu'on peut voir une différence. Là.
Oui, et bravo pour les Red Sox de Boston et Craig Breslow. Les Red Sox, Marc, ont dû procéder à un changement pas très populaire au Québec, on le comprendra, Abraham Toro qui a été rétrogradé, non seulement ça, mais retiré de la liste des 40 joueurs. Il a accepté sa démotion, va se retrouver à Western au niveau 3A pour terminer la saison. Ça ne signifie pas qu'il ne sera pas de retour au mois de septembre. Il va falloir des changements, évidemment, sur les 40 joueurs. On ne sait pas trop ce qui peut arriver de ce côté-là. Mais c'est assez cruel, Marc, parce qu'il était très bon lorsqu'il a été rappelé dans le cas d'Abraham Toro.
Ben, cruel, c'est le mot juste, Alain, parce que rappelez-vous, lorsque Abraham s'est joint aux Red Sox là, des ligues majeures au début du mois de mai, là, son impact a été immédiat. Il a été vraiment un joueur clé. À un moment où les Red Sox se cherchaient, là, faut-il le dire aussi, et là, il y a eu la blessure à Tristan Casas. Il a pris pratiquement le poste de premier but. Il a fait des jeux en défense surprenants. Écoute, il avait un MPP au-dessus de 800 au mois de mai. Là. Puis là, au mois de juin, ça a été très, très bon aussi. Un peu à la baisse, mais quand même très, très solide. Au-dessus de la moyenne du baseball, certes, dans le cas d'Abraham. Et là, ça s'est gâté un petit peu en juillet. Puis là, ben c'est là que l'équipe s'est mise en marche, Alain. On s'est mis à... Bon, rappelle-toi la transaction avec Devers. Là, l'équipe s'est mise à mieux jouer. Alors là, ben les attentes, soudainement, étaient peut-être un peu plus élevées. Je dis pas qu'elles n'étaient pas élevées au début de la saison, mais tu te cherches un peu en début de saison. Puis là, ben il y a une baisse considérable en juillet de son rendement en attaque. Et je pense, Alain, le fait qu'il avait frappé dans cette balle à double jeu en fin de rencontre avec les buts remplis dans la dernière série là, en début de semaine dernière. C'est évidemment, le mois d'août, là, c'était très difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est que le gars passe d'un joueur qui frappait au troisième et même au quatrième rang du rôle offensif en mai et en juin. Puis, tu sais, aide l'équipe vraiment, il faisait partie des solutions à être non seulement, bon, retourné de nouveau 3, mais sorti de la liste des 40. Donc, c'est ça le sport professionnel. Le baseball, c'est cruel. Souvent, on me disait, c'est pas de te rendre en haut, Alain, qui est difficile, c'est d'y rester puis de prouver que tu restes constamment. Et à l'Abraham, c'est une longue carrière là, déjà pour lui, mais puis tu sais, à chaque fois, Alain, qu'il est retourné dans les ligues mineures, il s'est retroussé les manches puis est revenu. Mm-hmm. Alors, moi, j'admire beaucoup Abraham Toro. Je m'en suis jamais caché. Je trouve que c'est un athlète extraordinaire. Il montre un caractère. Regarde. Tu goûtes aux ligues majeures, tu veux pas retourner dans les mineurs. Alors, lorsque tu sais, combien de fois un gars peut retourner dans les mineurs puis dire, hey, là, je suis assez, là, tu sais. Alors que lui, non, il décide de travailler fort, veut retourner. Alors moi, je trouve que faut admirer Abraham Toro, mais effectivement, ça expose cette difficulté de rester puis que les carrières sont pas nécessairement très longues dans le baseball majeur. C'est dur. La compétition est féroce. C'est pas évident, mais je suis convaincu qu'Abraham Toro va retourner dans le baseball majeur. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine.
Oui, et écoute, il reste très, très peu de journées avant la fin de la saison là, au baseball mineur. On va voir quels seront les plans des Red Sox à son égard.
Écoute, Alain, 1er septembre, on remet la il y a deux joueurs de plus en formation. On passe de 26 à 28. Tu vas me dire qu'il va peut-être avoir un lanceur là-dedans. Je pense qu'on passe à 14 lanceurs à ce niveau-là. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait une discussion puis qu'éventuellement Abraham Toro soit de retour. Oui, ça va prendre une place sur la liste des 40. Mais Alain, je trouve que dans les dernières années, là, la liste des 40, là, ça bouge pas mal. Tu sais, on n'hésite pas on l'a vu dans le cas d'Abraham, on n'hésite pas à enlever un gars alors que ce sera peut-être le même cas dans une semaine. Là,
exact. Ben écoute, on espère le mieux pour lui. C'est pas compliqué, là. Ouais. Puis, je pense que les Red Sox ont beaucoup aimé sa contribution. Il a donné un fort coup de main en début de saison aux Red Sox de Boston. Mais c'était rendu extrêmement difficile pour lui, Marc. Il frappait pour 125, là, regarde, depuis deux semaines, là. C'est pas compliqué, là. Donc, dans un contexte où les Red Sox se battent pour une place en série.
Exact.
Donc, on lui souhaite évidemment le meilleur. La question de la semaine est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On s'adresse, bon, aux amateurs de baseball. Il y en a des amateurs qui sont des partisans des Yankees de New York, eux en particulier, mais pour les autres, ben, mettez votre chapeau pendant 30 secondes des Yankees de New York. Et dans le fond, on a parlé d'Anthony Volpe. Avez-vous toujours confiance à Anthony Volpe? Il a eu un congé ce dimanche. Il a fini le match, mais c'est pas lui qui a commencé. Il fait l'objet de nombreuses critiques. Est-ce que vous lui faites encore confiance? On vous invite à envoyer vos commentaires. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado. Vous pouvez penser aussi directement sur notre site internet, compte-complet.com.
Amateurs de baseball, viens vivre l'expérience des Capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaldequebec.com.
Alain, on prend quelques instants pour souligner nos partenaires principaux de ce balado. Évidemment, Plan Match, où je me trouve ici à Boucherville. Plan Match, boutique de baseball, évidemment. Il y en a deux maintenant. Il y en a une également à Jonquière. Je vous invite à visiter évidemment la boutique en ligne. Donc, 12 mois par année, vous pouvez acheter votre équipement de baseball en ligne également. Et à Boucherville, ben cage de frappeurs, cours privés, des cours en groupe également, toutes sortes de façons de s'entraîner. Alors, allez visiter le site Internet, évidemment, de Plan Match. Et les Capitales de Québec, encore une fois, ça va bien pour les Capitales. Alain, on a eu des matchs à guichet fermé tout au long du mois de juillet et du mois d'août à Québec. Les séries s'amorcent bientôt aussi, alors allez encourager les Capitales de Québec qui nous offrent un spectacle tout à fait extraordinaire. Alors, si vous voulez plus de renseignements sur notre balado, visitez notre site Internet www.comptecomplet.com.
Marc, les Blue Jays de Toronto ont joué pour 500 cette semaine. Ils ont perdu deux matchs sur trois contre les Pirates de Pittsburgh. Les Pirates, Marc, sont en train de faire le plein de bras. On pourra peut-être en parler éventuellement, là. Mais il y a quelques jeunes qui ont monté, ils vont appuyer Paul Skene, ça va prendre un peu plus d'attaque. Bon, on va parler des Jays, donc trois victoires, trois défaites, mais compte tenu de ce qui est arrivé entre les Yankees et les Red Sox au cours de la semaine, on n'a pas gagné de terrain. C'est pas compliqué, les Yankees avaient bien amorcé la semaine, mais trois défaites plus tard, bon, on se retrouve, on a joué pour 500. Les Red Sox sont arrivés à New York avec une séquence de défaites. Bref, pour les Blue Jays, on a gagné du temps. Ça veut dire une semaine de moins pour les deux autres équipes pour tenter de rejoindre les Blue Jays de Toronto. Une petite frousse, par contre, Vlad Guerrero. Oh, monsieur, faudrait pas le perdre, celui-là. Parce que ça paraît quand il n'est pas là.
Oui, ça paraît. Je ne sais pas. Écoute, moi, je trouve que l'attaque des Blue Jays, bon, c'est sûr qu'à long terme, une perte de Vladimir Guerrero serait... Oui. Je dirais même désastreuse. On a quand même une attaque, Alain. Puis là, bon, Springer est revenu, ça a fait du bien. Bichette connaît une saison remarquable. Hein, passe un peu sous le radar, mais Bichette a été excellent. Mais là, tu vois que des gars comme Barger, c'était un petit peu plus difficile, d'où le fait que Varsho arrive, puis là, oups, soudainement, Varsho, quand même, là, écoute, frappe des circuits à un rythme assez impressionnant à ce niveau-là. Ouais. Mais. Tu sais, rappelle-toi, Alain, il y a à peu près trois semaines, à peu près un mois, là, on se disait ça allait bien pour les Blue Jays, on était sur une belle séquence. Mais est-ce que les gars vont... Tu sais, lorsqu'on arrive dans le dernier droit, là, mois d'août, mois de septembre, on est dans la course. Pas tout le monde qui a vécu ça encore. Là. Alors, tu sais, il y a eu un ralentissement un petit peu. Et c'est vrai que Vlad, soudainement, vient souder tout le monde ensemble, alors que là, son absence peut-être exposé un peu à ce niveau-là. Par contre, on a continué à mettre des balles en jeu. On n'est pas souvent retiré sur des prises. Donc, la recette fonctionne bien. Ça a été une semaine un petit peu plus difficile. Là, ben, ce sont les Twins du Minnesota là, qu'on affronte en début de semaine. Le retour de Vlad est prévu pour ce lundi. Alors, tu l'as dit, Alain, on a gagné une semaine, finalement. Puis c'est là que on voit que c'est dur de gagner du terrain. Il faut que tu en gagnes des matchs, puis il faut vraiment que tu souhaites que l'équipe de tête les perde à peu près toutes là, si tu veux gagner du terrain. Ce qui me chatouille un peu chez les Jays, Alain, même si Bieber a été très, très, très bon, là, évidemment, à son premier départ, et les départs de Berríos, ça a été beaucoup mieux. J'ai hâte de voir si ça va être suivi d'un autre bon départ. Mais Gausman, c'est si peu plus difficile. Alors, on a des très, très bons lanceurs, mais je sais pas, est-ce qu'on commence à être un petit peu à bout de souffle de cette longue saison de baseball?
Ben, c'est peut-être pour ça qu'on y va avec 6. Partant, Marc, ton évaluation de Shane Bieber, j'imagine que c'est la même à peu près que tout le monde. C'est rapide, d'à peu près au niveau où elle était avant son opération. Bon contrôle, bonne présence au monticule. Je sais que c'était les Marlins, mais c'est quand même, je te dirais, très rafraîchissant et rassurant de le voir excéder de la sorte.
Exact. Écoute, lui, là, il lance avec sa tête. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est, tu l'as dit, là, c'est pas un gars qui lance à des rapides à 96-17 000 à l'heure. Lui a compris que moi, il faut que je déstabilise un frappeur, donc j'y vais avec la précision, avec des choix de tir intelligents. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Bieber. Hey, écoute, il a pas gagné le trophée Cy Young par chance, là. Et ce gars-là sait comment lancer. Je vais te dire une chose. Moi, j'ai trouvé son étoffe, tu sais, qu'il y avait de l'étoffe, puis j'ai trouvé que il avait pas l'air d'un gars qui revient d'une blessure. Je pense qu'il a vraiment, il a pas triché dans sa réhabilitation, hein. C'est, il y a eu plusieurs départs lorsqu'il était encore avec les Guardians. On lui a donné une coupe d'autre avec les Blue Jays. Tu sais, il y a souvent des gars qui, ils ont hâte de revenir. On précipite parfois notre retour. Je trouve, en tout cas, que ça semble un dossier qui a été très, très bien géré. Et là, ben, tu l'as dit, avec une rotation à 6, moi, je pense que c'est excellent. Tu sais, Lauer, on en a fait un plat, là, qu'on a choisi. Bon, Lauer s'en va dans le bullpen. Mm-hmm. Lauer s'en va pas dans le bullpen, là, dans le sens que il s'en va pas en relève pour le reste de la saison. C'est que là, on a des journées de congé. On va faire en sorte que Lauer va retourner. D'ailleurs, il va lancer au cours de la semaine comme partant. Alors, tu sais, des fois, il y a des décisions qui sont pas toujours évidentes à prendre d'une organisation, mais faut pas tirer des conclusions trop vite. Là. Tu sais, Lauer mérite d'avoir d'autres départs. Et je vais te dire une chose, ça sera pas trop d'avoir 6 partants là, avant, avec cette fin de saison-là. Puis ça va permettre à l'équipe aussi de vraiment stabiliser qui sera ou qui seront les lanceurs partants lors de la première ronde des séries à ce moment-là. Donc, il y a plein de défis là, encore pour les Blue Jays de Toronto là, d'ici la fin de l'année.
Si on y va au mérite, Marc, ça commençait demain matin, Lauer, je m'excuse, mais fait partie des trois premiers partants avec ben, Scherzer, puis qui tu choisirais comme troisième? Tu sais, il y en a qui prétendaient qu'il faudrait que ce soit Bassett, parce que Bassett n'a pas le répertoire pour être un releveur. Je ne sais pas ce que tu en penses. On pourrait dire la même chose de Berríos, à mon avis, là, parce que c'est rapide. Il a perdu un peu de vélocité depuis 2 ans, Berríos.
Écoute, honnêtement, c'est pas évident de entre Berríos, Gausman même. Je l'ai trouvé un petit peu plus vulnérable dans ses derniers départs.
Ouais.
Un petit peu plus difficile. Écoute, Alain, imagine-toi là, si les séries commençaient et on décide d'aller avec Lauer, Scherzer et Bieber.
Ouais.
Mais écoute, c'est quand même, Alain, on entre quand même dans la zone critique du mois de septembre pour garder évidemment cette première place-là et les séries. On est quand même bien équipé en raison de bon l'arrivée de Bieber avec ses 6 lanceurs partants là, parce que tu vas avoir le luxe. Ah, évidemment, on va toucher du bois qu'il n'y aura pas d'autres blessures, là, mais en ayant le luxe d'avoir une belle profondeur, quand même, faut-il le dire, au poste de partant. Là.
Ouais. Ben écoute, oui, c'est un luxe, effectivement, que les Blue Jays ont. On verra cette semaine ce que ça va donner, Marc. Ça se poursuit, évidemment, cette lutte. 5 semaines encore. On a 4 matchs d'avance. Regarde. Pour les Blue Jays de Toronto, on est quand même bien placé. Faut parler de la série en fin de semaine entre les Dangereux et les Padres de San Diego. Les deux équipes, au moment où on se parle, avec 5 semaines à jouer, c'est l'égalité parfaite. Même nombre de victoires, même nombre de défaites. Regarde, les Padres sont bien. Les Padres jouent bien. Moi, si tu veux comparaison, les Padres, c'est les Red Sox, puis les Dangereux, c'est les Yankees de New York.
Exact. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois des Padres. Les Dodgers, ben, t'sais, tranquillement, pas vite, les gars reviennent. T'sais, Blake Snell est revenu au jeu. Ça va rester une très bonne équipe. Mais il va falloir que les Padres trouvent le moyen de battre les Dodgers. C'est aussi simple que ça, Alain. À un moment donné, si tu veux aller loin en série, il va falloir que tu passes à travers les Dodgers, quelque part là, du côté des Padres, puis il faut trouver le moyen. Là, tu t'en as parlé, les deux dernières séries récentes, là, ben les Dodgers ont eu le dessus. Alors, écoute, mais j'adore ce que je vois, moi, avec les Padres de San Diego. Je trouve que c'est une bonne équipe. Là, il y a Jackson Merrill qui connaissait pas une très, très, très bonne saison, là, selon ses standards à lui. Il est retourné sur la liste des joueurs blessés, là, mais écoute, on a une relève quand même extrêmement solide. J'ai bien aimé le dernier départ de Nestor Cortez. Il y a des choses, là. Il y a des choses à San Diego. Moi, je vais te dire, la Ligue nationale, tu regardes le portrait des séries actuellement, Alain, là, on connaît un peu les équipes qui vont aller, mais est-ce que tu peux me dire, là, aujourd'hui, à la fin du mois d'août, là, que tu vas avoir une équipe dans la nationale, assurément, qui va se rendre en série mondiale, puis une équipe dans l'américaine qui, assurément, va se rendre. La question est non, là. Je trouve que les séries s'annoncent vraiment excitantes parce que je trouve qu'il n'y a personne là, qui se démarque au point où on dit eux autres vont dominer carrément les prochaines semaines. Là.
Je t'aurais dit les Phillies il y a une semaine, Marc, mais la perte de Zach Wheeler a changé la donne énormément à Philadelphie, malgré le fait que Suarez et Sanchez se comportent vraiment comme des partants de très haut niveau. Zach Wheeler, c'est ton numéro un. Ça va faire mal.
Oui, absolument. Écoute, il n'y a aucun doute. Puis surtout, on connaît l'importance des partants lorsqu'on amorce des séries, que ce soit un 3-5 ou un 4-7. Tu veux amener ce gars-là qui t'assure d'avoir le départ de qualité. Alors, ça va faire mal. Ça va faire mal aux Phillies. Les Phillies qui ont quand même une bonne avance dans la division. Là, on va terminer au premier rang. Là, les Mets qui ne jouent pas avec constance, mais pas du tout là, récemment. Il y a 7 matchs qui séparent les deux. Donc, les Phillies, si les Phillies peuvent avoir... puis l'autre affaire, par contre, Alain, qui va être dangereux pour les Phillies ou les Dodgers, c'est selon, c'est qu'il faut pas oublier que il y a 3 divisions. Et les 2 meneurs de division avec la même fiche vont avoir ce fameux bail en première ronde, mais l'équipe qui va finir, la 3e meilleure équipe, si vous voulez, ben, oups, on va être obligé de jouer ce fameux 2-2-3-là. Et c'est là que ça peut jouer au niveau des lanceurs partants aussi. Là.
Exact. En tout cas, oui, Marc, tu as raison là-dessus. Je persiste à croire que les Phillies ont encore un très solide club. Mais bon, effectivement, ça joue sur le terrain. On va voir la première des choses qui va bénéficier de se laisser passer parce qu'il y a Milwaukee qui est là. Est-ce que Milwaukee, évidemment, ne pouvait pas maintenir le même rythme qu'on a eu au cours des 6 dernières semaines? Mais tu sais, c'est en attaque du côté des Brewers. Marc, juste entendre là-dessus. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé au cours de la dernière semaine. Il y a eu des retours au jeu, Rhys Hoskins, entre autres, là, puis Andrew Vaughn ne faisait pas partie de la formation partante. À un moment donné, ça m'a dérangé un peu. Andrew Vaughn a fait partie des succès de l'équipe au cours des 6 dernières semaines.
Oui, oui. Et Rhys Hoskins était très bon. Fait partie des, on va dire, des bons côtés des Brewers au cours des premières semaines. Mais moi, je pense, Alain, que tu n'as pas le choix de ramener Hoskins en formation compte tenu de ce qu'il avait fait avant. Mais on ne sera pas très patient, là. Tu sais, à un moment donné, là, parce que je regarde, il y a 5 matchs qui séparent les Brewers aux Cubs. C'est pas une bonne avance, Alain, mais tu peux pas juste te dire, OK, on a le premier rang assuré, là. Alors, on a gagné seulement 4 de nos 10 derniers matchs. On est dans, tu sais, peut-être de ce passage à vide qu'on n'avait pas vraiment vécu encore, là, du côté des Brewers. Mais Pat Murphy, moi, je lui fais grandement confiance, Alain, puis j'ai l'impression que Vaughn va être de retour plutôt que tard dans la formation, parce qu'effectivement, c'est probablement l'ajout qui a eu le plus d'impact, ou presque, là. Ça n'a même pas été une transaction à la date limite, là, ça s'est fait quelques semaines avant.
Oui, effectivement. Puis ce gars-là, faut qu'il soit dans la formation partante à tous les jours.
Moi, d'accord.
J'ai vu ça, peut-être pour service rendu, on peut le comprendre. Pas sûr, mais enfin.
On comprend, Alain, c'est là qu'on va voir si Pat Murphy dit OK, ben parfait, t'es revenu, là, on t'a donné un match, deux matchs, trois matchs. Je parle de Rhys Hoskins, entre autres choses, mais je veux dire, il faut. Un peu comme les Red Sox ont fait avec Abraham Toro, dans le sens que là, les gars, ça prend, tout le monde doit embarquer dans le processus, tout le monde doit jouer. Alors, si ça ne marche pas pour un, ben là, il faut que tu mettes ta meilleure formation pour garantir de remporter le titre de la division.
Oui, puis Murphy doit jongler parce qu'il n'y a pas d'ouverture comme frappeur de choix. C'est Yelich qui occupe cette position-là avec les Brewers. Puis Hoskins ne peut pas jouer ailleurs. Vaughn, on l'a déjà utilisé comme voltigeur. La force des Brewers, entre autres, c'est la défense. Est-ce qu'on va compromettre ça pour pouvoir avoir les deux? En tout cas, regarde, ce sera aux Brewers de gérer ce petit problème, si problème est. La carte de baseball, la semaine, une présentation de cartes d'UnionDépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100 %. On a retenu une carte de Dizzy Dean de la série Tattoo Orbit et ça date de 1933. 1933, évidemment, c'était la Grande Dépression, mais le baseball était immensément populaire. Il a été élu au temps de la renommée, c'est en 1953. Et quant à l'ensemble de la carte, ça vient de Orbit Gum Company. C'est une filiale de Wrigley. Wrigley est encore associé aux gommes Balloon, et gommes de toutes sortes, de toute façon. Ces petites cartes-là marquent 5 cm par 6. C'est pas très, très gros. C'est en noir et blanc avec un fond coloré. Dizzy Dean, Marc, c'est peut-être un des lanceurs les plus médiatisés des années 30. C'est le dernier lanceur de la Ligue nationale à avoir remporté 30 matchs. Il l'a fait en 1934 avec les Cards de Saint-Louis, alors que les Cards ont remporté la Série mondiale. Lui et son frère, Paul, avaient remporté 48 des matchs des Cards de Saint-Louis. Ils ont remporté les 4 matchs de la Série mondiale contre les Tigers de Détroit. Il était ce qu'on pourrait considérer en langage québécois, Marc, comme une grande gueule. C'est pas compliqué. Et il avait une assurance. Pendant la Série mondiale de 1934, c'était contre les Tigers de Détroit. Même à cette époque-là, on avait des rapports, Marc, sur les joueurs adverses. Puis la grande vedette des Tigers, c'était Hank Greenberg. Et on lui avait dit, Greenberg, fais attention, il aime les rapidotes. Dans le dernier match de la Série mondiale, les Cards avaient pris une avance quand même assez confortable au cours du match. Vraiment, Dizzy Dean en lance une haute à Greenberg qui frappe un coup sûr. Puis là, Dizzy Dean se retourne vers son gérant et dit, hey, t'as raison, il les aime hautes, les rapides. C'est que, mais, tu comprends. Mais Dizzy Dean, une carrière qui a été écourtée, Marc, au match des étoiles de 1937. Il a été atteint par une flèche à un pied. Ça a changé son élan. Il a développé un mal de bras. Il n'a plus jamais été le même par la suite. Quand tu regardes ses statistiques, d'ailleurs, qu'il a lancé l'année suivante avec les Cubs, c'est rendu en Série mondiale. Mais, Marc, il essayait de survivre avec ce qu'il connaissait du baseball. Parce que tu regardes, son nombre de retraits sur des prises était famélique. On dit qu'il y en avait beaucoup moins à cette époque-là, mais même dans son cas à lui, beaucoup moins. Il essayait de survivre pendant quelques années. Puis finalement, il a terminé sa carrière grâce à quoi? Sa grande gueule, puisqu'il a été analyste pendant plusieurs années au baseball avec un accent du Sud presque incompréhensible pour plusieurs auditeurs qui étaient dans le Nord et avec, disons-le, une grammaire réinventée par moment. Dizzy Dean qui n'a pas laissé grand monde indifférent, je te dirais, là, au cours de sa carrière, autant comme joueur que comme analyste de baseball.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Nous vous invitons à la lecture, surtout les jeunes, avec la série des livres de notre ami Bob McDuff, Baseball Bob. Il y en a 4 éditions, dont celle qui a été sortie un peu plus tôt cette année, Baseball Bob et le chant des tournesols. C'est une excellente occasion pour les jeunes de s'initier à la lecture avec comme thème principal le baseball. Et la lecture est propice au développement de l'imagination, évidemment, et des connaissances, pourquoi pas. Vous pouvez aller sur le site de notre ami Bob, baseballbob, www.ca. Notre profil de la semaine, Garrett Crochet. Je ne sais pas si c'est une surprise, Marc, mais le Cy Young, on ne le donnera pas tout de suite à Tarik Skubal, parce que Garrett Crochet a toute une saison. Il livre la marchandise. Lorsque les White Sox ont payé de gros prix pour l'avoir, on voulait un partant qui était pour être notre locomotive. celui qui était pour aider les autres. Écoute, Marc, c'est un des meilleurs lanceurs dans le baseball majeur, c'est pas compliqué, il est dominant. Il aime ça. On va dire les vraies choses aussi. Choix de première ronde en 2010, Marc. C'est lui actuellement qui a le WAR le plus élevé de la QV de première ronde de 2010. Spencer Torkelson avait été le tout premier choix de ce repêchage. Après Crochet, qui a le WAR le plus élevé? C'est Pete Crow Armstrong, qui avait été un choix, non pas des Cubs, mais des Mets de New York. Échangé pour Javier Baez. Dans le cas de Garrett Crochet, Marc a commencé sa carrière tout de suite l'année de son repêchage. On l'a utilisé comme releveur. Malheureusement pour lui, il a raté une saison complète en raison de l'opération Tommy John. L'année passée, sa première comme partant, on voyait déjà, Marc, que ce gars-là avait l'étoffe pour être un partant et pour être dominant. Évidemment, l'année passée avec les White Sox, tu comprendras que son dossier victoire-défaite n'était pas très, très reluisant. Il n'y a personne qui a un dossier reluisant victoire-défaite avec les White Sox l'année passée. Et Marc, cette année, là, se retrouve dans un environnement gagnant. Quelquefois, Marc, il y a des joueurs qui, dans des environnements où il n'y a plus de pression, qui peuvent avoir plus de difficultés. Dans le cas de Crochet, il faut dire qu'il a des épaules assez larges pour en prendre. Puis lui, il a l'air à trouver ça le fun de jouer avec les Red Sox de Boston.
Ben écoute, Alain, c'est 6 pieds 6, 245. Fait que tu parlais d'épaules larges, là, puis de colosse au monticule. Garde, il y a une présence. Tu sais, Chris Sale, rappelle-toi, il avait une présence, mais c'est un grand maigrichon au monticule. Mais lui, il arrive avec encore plus de un volume imposant qui est devant toi, qui est à 6 et 6. C'est que t'as l'impression qu'il va porter la balle dans le gant du receveur. C'est intimidant. Et je vais te dire une chose, il n'a que 26 ans, Alain. Donc, si on considère que tes meilleures années s'en viennent, alors tu imagines là, ce qu'il peut faire pour les Red Sox au cours des prochaines années. Mais t'as ton as. Et Crochet a tout pour. Puis tu sais, tu le regardes, là. L'expression game face, là, t'as l'impression qu'il l'a 24 heures sur 24, lui. Hein? Il est en mission lorsqu'il est au monticule. Il entend parler. Il parle. Pour lui, là, c'est business. Puis, tu sais, moi, je m'en vais te retirer. Je vais t'intimider s'il faut. Alors, regarde, il y a tout. Il y a tout pour réussir.
Marc, quand il est au monticule, t'as l'impression qu'il va tout te lancer. Tu sais, avec la jambe, le bras, tu sais, il y a une grosse poussée. Un gars fort. T'es mieux d'être prêt si t'aimes pas qu'il lance à l'intérieur. Là. Mais c'est ça, t'as l'impression que c'est pas juste la balle qui s'en vient, qu'il te lance tout l'ensemble de son corps.
Hey, ça doit pas être facile de voir la balle sortir de sa main, comme t'as mentionné avec la jambe. Puis, je me répète, là, mais à 6 pieds 6, t'imagines là, quand il dépose son pied et s'en va porter la balle, là, je veux dire, c'est comme frappeur gaucher, ça doit être quand même assez spécial. Là. On a eu les Randy Johnson à une certaine époque, là, mais une chose, Garrett Crochet, ça doit pas être nécessairement l'endroit le plus agréable de te retrouver dans le rectangle des frappeurs avec un gars comme ça. Mais regarde, c'est pour ça qu'il a, tu sais, tu regardes sa moyenne de points mérités, tu regardes son ratio de but sur balle, retrait sur des prises. Je veux dire, tout est là présentement pour Garrett Crochet. Puis son équipe est présentement là, a une place en série. Alors, regarde, c'est parfait pour lui. Moi, je pense que c'est un excellent marché. Boston pour un gars comme ça. Puis il est capable d'en prendre. Puis je veux dire, c'est pas un gars qui va se laisser intimider par si jamais il va dans un passage à vide. Là, c'est pas ça qui va le déranger trop. Là.
Oui. Et Marc, je sais pas si ça te surprend. J'ai regardé le WAR des lanceurs avant que ça commence. C'est Scooball qui est premier. Crochet est troisième. Hunter Brown, c'est faufilant entre les deux. Hunter Brown, évidemment, joue dans un contexte très avantageux pour des frappeurs. Ça compte probablement dans le WAR. Et Scooball, regarde, disons-le, là, c'est un numéro un au même titre que Garrett Crochet. Hunter Brown, on peut le comparer également. Bref, c'est pas encore fini. Il reste encore 5 semaines, mais j'ai l'impression que la lutte, dommage pour Brown, mais va se faire entre les deux gauchers.
Ouais, mais écoute, mais tu fais bien. Tu sais, moi, je pense qu'il faut donner un peu d'amour à Hunter Brown. Tu sais, c'est pas le nom là qui ressort nécessairement tout le temps, mais ce gars-là est en train de monter une saison tout à fait phénoménale. Mais effectivement, ça pourrait jouer entre les deux grands gauchers qui, ma foi, moi, j'étais frappeur gaucher, Alain. Là. J'aurais peut-être eu un petit mal à laine là, avant un match contre ces gars-là.
Oui, on peut comprendre ça. Marc, on va parler de la réorganisation envisagée et peut-être même envisageable du baseball majeur, et ce sont les mots du commissaire du baseball, Rob Manfred. Ça fait longtemps, Marc, qu'on prend des mesures pour gagner, pour économiser de l'argent. Je parle entre autres du fait qu'on a éliminé plusieurs équipes dans le baseball mineur. Ça, c'est, regarde, il y a Jerry Reinsdorf, là, ça fait des années que lui voulait en éliminer, ben, il a eu son souhait. Pourquoi Reinsdorf? Ben, il est propriétaire aussi, c'est le propriétaire des White Sox de Chicago, propriétaire des Bulls de Chicago. Puis tu comprends qu'avec les Bulls, il a gagné souvent, merci à Michael Jordan, entre autres. Puis, il n'y a pas de club école au basketball. Hein? Donc, je me demande pourquoi que c'est pas la même chose au baseball. Regarde, on comprend pourquoi les White Sox sont devenus tout croche depuis plusieurs années. Regarde. Mais toujours est-il que là, le but, Marc, non avoué, c'est de limiter les dépenses de transport. Et tu sais, il y a des équipes comme Seattle là, qui voyagent beaucoup plus. Et là, la réorganisation, Marc, a ce but-là notamment, d'éliminer les coûts de transport. Autrement dit, Seattle, plutôt que se promener au Texas, tu comprends, deux fois par année, bien là, j'aurais plus avec San Francisco, avec Oakland, ça resterait sur la côte ouest. Tu sais, Chicago, bien, on s'affronterait plus souvent au sein de la même section. Je pense qu'il y a un peu de ça derrière ça. Et évidemment, l'ajout de deux autres équipes. Je ne sais pas comment tu vois cette perspective-là. Moi, ce que j'ai dans la tête quand j'entends ça, deux autres équipes, certains disent, bon, on va ajouter d'autres joueurs. Mais tu me dis souvent, Marc, parce que tu te promènes aux États-Unis beaucoup, tes fils y jouent, et tu es impressionné par le calibre de jeu qui se joue aux États-Unis. Et tu me dis souvent, des bons joueurs de balle, il y en a pas mal. Donc, si je prends tes propos et à travers tout ça, on est capable de soutenir l'ajout de deux autres équipes.
Ben, écoute, oui, là, il y a beaucoup de choses dans ta question ou dans tes questions, là, mais ouais. Premièrement, en fait, oui, on veut diminuer les coûts, mais on veut aussi diminuer le temps de voyagement. Tu sais, tu as parlé des Mariners, là, tout à fait. Ouais. Là, je pense que tu regardes la façon que c'est fait, c'est correct, mais on veut aussi créer des rivalités naturelles. Bon, les deux équipes de Chicago l'une contre l'autre, les deux équipes de Los Angeles, les équipes de New York, qui attirent quand même toujours beaucoup. Mais il y a un paquet de choses là-dedans. Premièrement, ben si tu réorganises tout ça, ben, une équipe, par exemple, comme les Blue Jays, alors qu'on est souvent contre les Yankees et les Red Sox, oups, on se retrouverait dans la centrale, ou en fait, peut-être pas dans la centrale, mais dans une situation où on se retrouvait avec des équipes de la centrale actuellement. C'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que là, tu comprends que jouer dans la même section que les Yankees et les Red Sox, c'est pas évident, mais les gens aiment quand même savoir que les Yankees et les Red Sox vont aller visiter Toronto, tu sais, au moins pendant deux séries là durant l'été. Qu'est-ce que tu veux, là? Est-ce que tu veux voir plus souvent les Red Sox ou les Yankees, ou tu veux peut-être t'assurer de gagner plus souvent le titre de ta division? Ça sera à tout le monde de juger. Mais ça fait du sens, Alain, de tomber à 32 équipes. 8 divisions de 4, un calendrier équilibré. Mais la grosse question dans tout ça, c'est pas nécessairement de savoir quelles seront les deux équipes, mais on va y revenir. Mais c'est que tu tomberais à un calendrier de 156 matchs. Et compte tenu de l'historique du baseball en termes de statistiques, là, il y a des records qui vont être difficiles à battre. Si t'enlèves 6 matchs là à une saison, est-ce que ça va déranger les statistiques? Alain, il y a une négociation qui s'en vient au chapitre de la convention collective après la saison 2026. Est-ce que tu penses que le fait que on a parlé d'ajout de joueurs, là, toi, t'as pas l'air convaincu nécessairement de tout ça, mais le 156 matchs, ça fait longtemps que l'association des joueurs le demande. Je sais que là, tu vas me dire 6 matchs de moins au total, donc 3 matchs de moins à domicile, c'est 3 matchs sans revenu de bon. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ça, les propos de Manfred, autrement dit, ils ont été ciblés pour le fait que ça prépare la prochaine négociation, ça prépare déjà des... Ou c'est vraiment... Parce que écoute, ça fait 10 ans là qu'il est commissaire, ça fait 10 ans qu'on entend parler de ça. Moi, pour moi, c'est pas une nouvelle là, d'entendre une réorganisation puis d'entendre parler d'expansion là. Tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau là. Et là, c'est de savoir les deux équipes d'expansion où ce serait. On sait que Nashville, ça semble très agressif de ce côté-là. Puis évidemment, à Montréal, tout le monde parle de Montréal à travers le baseball, sauf à Montréal. Non, mais c'est vrai, ouais. Là, Alain, parle.
Ben oui.
Tu sais, je veux dire, on parle régulièrement à des bon, évidemment, les gens des médias, mais tu parles autant à des dirigeants du baseball. Tout le monde aimerait que Montréal revienne. On dirait que c'est juste nous autres qui ne comprend pas qu'on aurait l'opportunité. Mais ça sera pour un autre débat, là, mais ça reste que y a quand même une première ouverture réelle, si on entend le commissaire lui-même en parler, sans même qu'on lui pose la question pratiquement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se mijotent, puis ça s'en vient quand même peut-être plus tôt qu'on pense.
Et ça pourrait, je pense, provoquer, Marc, la chute des deux ligues comme on les connaît. Je parlais de Seattle tantôt et je parlais du fait qu'on veut voyager peut-être moins. Mais regarde, les deux clubs du Texas, par exemple, pourraient être dans la même section et avec la Floride. Tu sais, il y a juste le Golfe du Mexique ou le Golfe des Amériques, dépendant de votre point de vue, là, mais qui sépare les deux. Tu sais, il y a une réorganisation, moi, je pense, qui se prépare, qui est beaucoup plus profonde et c'est ça, c'est l'élimination des deux ligues. Moi, je pense que c'est ça qui s'en vient éventuellement.
Ce qu'on pourrait peut-être faire, Alain, ce qu'on pourrait peut-être faire, Alain, c'est appeler, tu sais, parce que là, on va marcher par division et par conférence.
Ouais.
Alors, ce sera peut-être une conférence nationale puis une conférence américaine, tu sais, pour garder peut-être, mais les deux ligues, effectivement, c'est la même chose, même dans le baseball d'aujourd'hui. Tu sais, on parle vraiment plus de matchs interligues. Là, c'est des matchs du baseball majeur. Alors, je pense qu'on a préparé le terrain pour ça, effectivement. Là. Ouais. Tu sais, il y a une certaine époque, Alain, les arbitres, tu avais des arbitres de la Ligue américaine, tu avais des arbitres de la Ligue nationale. Là. Je veux dire, c'était très, très, très différent. Tu avais des... Même l'habillement des arbitres était différent à l'époque entre les deux ligues. Tu avais un président, tu avais ci, tu avais ça. Alors, évidemment, bon, c'est toujours sous forme d'économie, peut-être, là, mais là, je pense que c'est correct d'uniformiser tout ça.
Oui, ouais. On l'a déjà fait de toute façon, Marc. Ça s'est fait éventuellement. Puis l'époque n'était pas si lointaine, Marc. Avant le match des Étoiles, là, le président de la Ligue nationale descendait dans le vestiaire et disait aux gars, là, non, non, c'est pas un match d'exhibition, là. On est là pour gagner, nous autres.
Ah ouais, oui.
Ça fait que, tout ça pour dire, il y a une rivalité. Ça a changé parce qu'on se promène d'une ligue à l'autre, puis il n'y a plus beaucoup de secrets non plus. Tu sais, le jour où Reggie Jackson affrontait Steve Carlton, puis il ne l'avait jamais vu, sauf dans le match des étoiles, là. Oublie ça, là. C'est bien révolu. Marc, si on lit les nouvelles, Cal Raleigh, nouveau monarque des coups de circuit pour les receveurs. Il a battu le record de Salvador Perez, et là, je vais y aller je vais choisir mes mots. Il a battu le record pour les receveurs qui évoluent principalement comme receveurs. Le record a été battu. Le record pour le plus grand nombre de circuits comme receveur, lui, n'a pas été battu.
Encore.
C'est ça, pas encore. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, une grosse nuance à apporter. Puis moi, je pense qu'elle est importante et je trouve qu'on ne l'a pas souligné assez. Salvador Perez, quand il a frappé ses 48 coups de circuit, il y en a une quinzaine qui l'a frappé alors qu'il était frappeur de choix. Ça n'enlève rien à son exploit. OK? Quel est le vrai record alors que tu t'accroupis derrière le membre et tu frappes un coup de circuit? Ce record-là est de 42 et il appartient à Javier Lopez. Donc, on parle d'autre chose. Et Cal Raleigh, il est rendu à combien de circuits quand il était comme receveur? Il a fallu regarder hier, Marc, parce que tu m'as dit, bon, il en a ajouté deux. OK, ça lui en donne combien comme receveur? Bien, il est rendu à 40. Les chances qu'il batte le record de Javier Lopez sont quand même très, très bonnes avec 5 semaines à jouer. Mais je pense, Marc, que cette nuance-là, on ne la souligne pas assez.
Bien, je suis d'accord. Surtout que dans le cas de Lopez, jouait dans la Ligue nationale pour les Braves. Pas de frappeur de choix à l'époque, évidemment. Lui, il les a fait comme receveur. Puis tu sais, Alain, moi, là, les receveurs, là, j'ai tellement d'admiration pour ces gars-là. Puis, je sais qu'Austin Wells va moins bien, puis mais c'est dur d'être receveur. Puis d'amener, tu sais, c'est normal parfois qu'il y ait une baisse en attaque. Dans le cas de Cal Raleigh, c'est une exception. Là. Je veux dire, c'est une saison remarquable dans l'histoire du baseball. Mais habituellement, les receveurs, c'est pas facile. Surtout rendu au mois d'août, Alain, là, puis si t'étais le receveur numéro un qui est derrière le marbre. Donc, ce que Avi Lopez a fait est exceptionnel. 42, là, comme receveur à chaque fois, alors que frappeur de choix, on sait qu'il y a un certain repos qui vient avec ça, ou même si tu joues au premier but, à la limite. Alors, il y a une nuance, puis Alain, tu fais bien de le souligner. C'est important de le faire. Mais Raleigh est en train, effectivement, de battre tout ça, là, malgré tout, le fait que Comme tu le dis, il reste quand même beaucoup de matchs à jouer alors qu'il n'en a que deux à réussir pour au moins rejoindre Avi Lopez. Mais écoute, tu fais bien aussi de le mentionner, des receveurs qui, bon, dans le cas de Perez, on sait qu'il a, tu sais, qu'il a un bon physique aussi, là. Frapper au-dessus de 40 circuits, Alain, c'est déjà un exploit. Le faire comme receveur, selon moi, c'est exceptionnel là, à tout point de vue. Et surtout dans l'air, Alain, où les receveurs, tu sais, on n'est plus à l'époque de Johnny Bench puis Gary Carter. Là. Les receveurs, c'est un peu, tu sais, on regarde Maldonado qui a été longtemps le receveur avec, bon, entre autres les Astros de Houston, tu sais. On voulait un gars qui attrape la balle, qui va chercher des prises, qui cadre bien, qui a une belle synergie. Fait qu'imagine-toi si tu ajoutes un peu d'attaque, là, tu ajoutes 40 coups de circuit et plus. C'est-à-dire, ça a beaucoup de valeur, selon moi, là. Énormément de valeur.
Tu viens de donner des arguments, toi, pour le joueur le plus utile à son équipe, à Cal Raleigh. Là.
Ben, écoute, il faut que je sois dans la discussion. Tu sais, ce qu'Aaron Judge fait actuellement, c'est... Regarde, les statistiques là, de jeux vidéo. Là. Mais il faut que tu considères Kyle Raleigh, je veux dire. Puis n'importe quel joueur de position, là, tu regardes le receveur, ce qu'il fait match après match, puis les balles ricochaient dans plein masse, puis les balles ricochaient sur le poignet, puis c'est pas grave, on continue, puis il s'en va au bâton après ça. Puis il essaie... C'est un respect immense pour les receveurs. Immense à travers le baseball. Puis, je suis pas certain que c'est si bien vu, pas bien vu, c'est que c'est si considéré par les gens qui vont faire leur choix de vote pour le joueur, par exemple, par excellence ou plus utile ou peu importe. Mais je vais dire une chose, là, lorsqu'un receveur est choisi, il n'y a personne qui va obstiner, personne, parce que tu le sais que ce gars-là, il a travaillé, je dirais pas plus fort, mais dans la position où il joue, là, il a certainement dépensé un petit peu plus d'énergie.
Tu sais, un peu plus tôt, quand on parlait du Cy Young, j'avais inséré le nom de Hunter Brown parce qu'effectivement, il a une très, très bonne saison. Puis je vais en insérer un autre, Marc, parce que lui, c'est justement, il est entre Raleigh et Judge. Si jamais Kansas City, Marc, se rend en série, il va falloir considérer Bobby Witt parce que c'est lui qui a le deuxième meilleur award de la Ligue américaine.
Et puis, en passant, les Royals, Alain, attention, Royals, là, sont en train de jouer du baseball comme on pensait qu'ils allaient jouer en début de saison. Là, ça semble coller ensemble. Une équipe qui va être assurée. Les Reds dans la nationale, les Royals dans l'américaine dans le dernier droit, là, c'est ça, selon moi, deux équipes à surveiller.
Ben, c'est sûr que c'est parce que Pasquantino continue de frapper comme ça, Marc, et Bobby Witt aussi. Je regarde le calendrier, là, des Royals, Marc. M'excuse, mais des deux prochaines semaines, là, on affronte. Il y a les Tigers au cours du prochain week-end, mais les White Sox, les Angels, les Twins, faut faire quelque chose au cours des deux prochaines semaines là, pour les Royals.
Oui. Puis c'est ça. Witt a pris ça en charge, mais effectivement, Pasquantino s'est dit un instant. Et là, c'est ça. Moi, j'avais choisi les Royals de terminer avant les Tigers, mais je mettais les deux là, pas loin. Mais là, je trouve que ça ressemble pas mal plus à ce qu'on avait anticipé en début de saison. Là.
Effectivement. Voilà ce qui complète ce balado. C'est maintenant la temps de la présentation de l'horaire des matchs de la semaine à RDS. Une présentation de Lester's, qui est le maître du smoke meat et des côtes levées des hot dogs depuis 1931. Que ce soit pour un match, un barbecue, un festin en famille. Bref, Lester's est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Trois matchs cette semaine. D'abord, lundi et mercredi, les deux sont à RDS. C'est Washington contre les Yankees de New York. Ce sera l'occasion de voir quelques bons jeunes prospects côté de Washington. Normalement, qu'il y en a deux, on peut dire, qui sont plus des prospects. Là, je pense à Wood et Abrams. C'est un match présenté à RDS2, donc comme je le mentionnais, à 19h. On verra l'autre club de New York mercredi. Les Mets contre les Phillies de Philadelphie. Marc, est-ce que c'est un match qui va se terminer 8-7? Les Mets frappent, mais on ne tire pas grand monde au monticule. On a énormément de problèmes et c'est dans le stade des Mets. Est-ce que ça va défavoriser? On vous invite à être là mercredi pour ce duel. Et on reverra les Phillies dimanche alors qu'ils vont accueillir les Braves d'Atlanta. Ce sera peut-être un bon moment pour regarder où les Braves en sont. Eux qui connaissent une saison bien en deçà des attentes, mais qui comptent quand même sur plusieurs joueurs de pointe, dont Ronald Acuña. J'espère que tu ne te laisseras pas d'ici là. Acuña là, qui montre des statistiques encore très impressionnantes dans un laps de temps très court. J'espère que cela vous a plu comme balado 5 semaines avant la fin de la saison régulière. Donc, du très, très bon baseball à venir. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Évidemment, je vous rappelle qu'il y a un balado cette semaine qui sera produit et on va tenir compte, évidemment, de vos commentaires quant à ce que vous aimez dans le baseball et ce qui pourrait être fait pour améliorer le produit. Bonne semaine, tout le monde!
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.